Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC, entre les poteaux,
Arnaud Souk.
Salut à tous, les Bleus étaient sortis de leur fantastique bataille face aux Springboks. Pétris de stigmates, ils auront relevé avec succès, peut-être un petit peu moins de bobos aussi, le défi japonais. Ces brefs Blossoms, imprévisibles mais battus dimanche à Toulouse par plus fort que eux. Score final 35-17. Voilà la série record des Bleus portée à 13 victoires consécutives. Sur le plan du jeu, malgré tout, la France n'a pas forcément montré grand-chose. Pas plus hier d'ailleurs que face à l'Australie et l'Afrique du Sud. Et si ces Bleus n'étaient pas encore tout à fait prêts pour le Mondial, on se posera la question. Des doutes assurément aussi dans la tête de Romain Ntamack, l'ouvreur titulaire du 15 de France, est complètement passé à côté de son match dimanche. Une tournée globalement ratée pour le Toulousain, à mettre en opposition à de très bonnes entrées de son remplaçant Mathieu Jalibert, encore décisif contre le Japon. Fabien Galthié doit-il le titulariser? On en débat dans un instant. Et puis, à un petit peu moins de 10 mois désormais du match d'ouverture entre nos Bleus et la Nouvelle-Zélande, on prendra aussi des nouvelles des All Blacks qui ont un joueur parfois poussif avec des cadres moins influents. Le 15 de France doit-il sereinement attendre de se frotter au triple champion du monde? Pas si sûr, on le verra. En tout cas, on essaiera d'en parler. Pour tenter de répondre à toutes ces questions et bien d'autres, j'accueille notre charnière de titulaire aux commentaires invaincus depuis presque un an et demi sur RMC, Denis Charvet et Wilfried Templier. Bonjour messieurs.
Salut Arnaud.
À vos côtés également, le capitaine, on n'a pas entendu Wilfried, tu es bien là hein?
Oui, si, je suis là, j'ai dit bonjour. Bonjour.
À vos côtés, le capitaine de l'équipe des poteaux est là, salut Pierre Amiche.
Bonjour, c'est trop d'honneur, simple grégario.
C'est les honneurs mérités, Pierre. Messieurs, c'est parti, flexion liée, jeu.
Attention à la percée de Lucu sur la touche, il remet à l'intérieur Charles Olivon. Charles Olivon, il va laisser Charles Olivon.
Vive la France.
Oui, la percée, plein axe, est-ce qu'il va y aller? Il va donner le demi-mêlée qui va aller marquer. Japonais en glissant, oui, essai du Japon.
Mais voilà.
Naoto Saito.
J'étais pas inquiet, mais là, la pauvreté du jeu, la pauvreté technique me fait dire que il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose.
Mais il est con, frappe, donne derrière. Tu penses trop. Attention, le côté par au-dessus, Jalibert encore magnifique pour Aldrit dans les 22 mètres. Aldrit qui s'enfonce à 7 mètres de la ligne maintenant. On repart dans le fermé, c'est bon. Angelo. On enchaîne une 13e victoire, on finit l'année invaincu. Enfin, les Bleus finissent l'année invaincu.
Oh, toi aussi, oui,
mais fait. C'est vrai qu'il y a des choses un petit peu hardies. En tout cas, l'essentiel est fait. Victoire des Bleus, 35-17.
Et de 13 victoires consécutives pour les Bleus, 35-17, donc on l'a dit, face au Japon. Les Bleus sont désormais à un grand chelem du record de 18 victoires co-détenues par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Ils n'ont plus perdu depuis l'été 2021. C'est une éternité à l'échelle du rugby français qui ne nous avait pas toujours aussi bien habitués. Pourtant, dans le jeu, les Bleus n'ont pas forcément impressionné. C'est ce qu'on a envie de se dire, messieurs. Denis, on pourrait dire oui, très bien pour l'équipe de France, avec un mais quand même.
Oui, mais quand tu gagnes, le problème, c'est face beaucoup de choses, beaucoup de déchets, beaucoup de défauts, beaucoup d'imprécisions, parce que c'est vrai que pendant ce match-là, y a la qualité technique n'était pas au rendez-vous. Et je parle de pauvreté de jeu, mais parce que c'est une réalité aujourd'hui.
Wilfried ?
Le problème, c'est qu'on est toujours sur les mois derniers, sur la victoire contre la Nouvelle-Zélande, sur le Grand Chelem, où enfin, on met 40 points aux Néo-Zélandais, donc vous imaginez le festival et vous rappelez le festival de jeu. Contre l'Irlande, pareil. Enfin, voilà. Rappelez-vous en Écosse aussi, le match qu'ils font, les Français, avec du panache, certes, pas mal d'essais sur ballon de récup, mais beaucoup d'essais, beaucoup de choses comme ça. Et on arrive dans cette tournée de novembre où il y a eu... On a le sentiment, on va en parler, qu'il y a eu quand même plus de restrictions dans le jeu. Que peut-être que le jeu pour la Coupe du Monde, c'est celui-là qu'ils vont mettre en place, qui vont un peu réduire la voilure. Je vous parlais de certaines stats après dans le jeu au pied. Donc voilà, ça gagne encore, mais il y a un peu moins de panache. Alors c'est une vue d'ensemble, hein. Peut-être que dans les datas de Fabien Galthié, il y a plein de choses à expliquer. Mais ouais, et comme l'a dit Denis, ce match d'hier. Mais franchement, il y a à redire, parce que tu l'as dit, hein, le déchet technique a été, il pleuvait, d'accord, le ballon était glissant, mais il y a eu beaucoup de déchets techniques et d'erreurs individuelles.
Mais ce qui est incroyable après cette tournée d'automne, c'est quand tu essayes de retenir du positif d'un joueur. T'as qu'un joueur, tu nommes qu'un joueur pratiquement, c'est Mathieu Jalibert, qui n'était pas titulaire lors des trois derniers matchs. Oui, bah, Penaud, je peut-être Damien Penaud aussi avec son essai de contre l'Australie. Mm. Mais ça suffit pas, quoi. Je veux dire par là, c'est que tu parles de panache justement, Wilfried, et tu sors de cette tournée. Cette équipe de France a quand même été sifflée au Stadium hier.
Et on passe quand même de l'identité défendue par Fabien Galthié. On est des Gaulois, l'aspect grégaire et imprévisible latin. Et finalement, aujourd'hui, j'ai le sentiment.
Des Anglais.
Voilà, j'ai le sentiment qu'on on joue pas comme l'identité française devrait le permettre. Et évidemment, on est dur. Les victoires, c'est magnifique. 13 victoires consécutives, il faut les pondérer, mais 13 victoires consécutives, c'est magnifique. Il faut pas cracher dans la soupe. Il y a 5 ans, on aurait été heureux de faire une tournée à 3 victoires. Mais aujourd'hui, on en attend un petit peu plus des Bleus. Et surtout, en termes de contenu, c'est un peu pauvre. Hein.
Alors, on va y revenir, messieurs. On va juste quand même prendre des nouvelles de certains joueurs qui se sont exprimés hier après la rencontre au micro de Wilfried et de Jeff Paturo, notamment Grégory Aldrit, le troisième ligne. Voilà pour qui l'essentiel, finalement, c'est de gagner les matchs.
Après, on est tombé sur des équipes qui étaient très fermées et très fortes défensivement, que ce soit l'Australie ou l'Afrique du Sud. Même le Japon, voilà, on a eu des conditions difficiles aussi en début de première mi-temps. Mais comme je dis, nous, on a un plan de jeu qui est fait pour gagner les matchs. Je pense que c'est le principal, c'est là où on va le prendre le plus de plaisir, c'est au coup de sifflet final. Et que le match est gagné, que ce soit pour les supporters ou pour nous. Donc on continuera là-dessus. Mais voilà, c'est pas interdit que de jouer sur le terrain, bien sûr. Non, on nous a jamais interdit de jouer, en tout cas.
Alors, on nous a jamais interdit de jouer.
Il parle de plan de jeu, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont un plan de jeu préétabli, qui est très formaté, et les joueurs sont maintenant, sont un temps fermés dans ce système-là. Mmh. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui, il dit oui, on gagne. Donc, à partir du moment où tu gagnes, mais voilà, le problème.
C'est forcément que
tu
as raison. Si tu gagnes,
voilà, tu as raison. Voilà, mais jusqu'où? Jusqu'où ils vont aller? Jusqu'où ils peuvent gagner comme ça? C'est la grande interrogation, elle est là.
Wilfried.
Ouais, c'est les stats que je vous disais, dont je vous parlais sur le jeu au pied, parce que c'est ce qui frappe quand on regarde l'équipe de France, messieurs, hein, que voilà, des ballons dans certaines zones du terrain, boum, 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 on tape. Donc moi, j'ai voulu regarder justement sur les matchs de la France, de l'Irlande, de l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud cet automne. La France est l'équipe qui tape le plus dans le ballon pendant les matchs. 34 coups de pied en moyenne par match. Derrière, c'est l'Angleterre, 26. Ensuite, l'Irlande et l'Afrique du Sud à égalité, 23. Et enfin, la Nouvelle-Zélande, 20. Vous imaginez, on met 14 coups de pied de plus que les Néo-Zélandais dans les matchs. Et hier, bon, il pleuvait, hein. On a tapé dans le ballon 43 fois. Les Japonais, 29. Il pleuvait. En comparaison, l'Angleterre, nous, alors je vous abreuve de chiffres, mais 43 coups de pied contre 29 aux Japonais. Angleterre-Nouvelle-Zélande, samedi soir, c'était 17 coups de pied pour les Anglais et 16 pour les Néo-Zélandais.
On a plus tapé que les deux équipes réunies, quoi.
Le ratio est quand même
c'est
énorme.
Hallucinant. Hein, ça dit quoi, Pierre, justement, ces chiffres?
Ça dit que ça dit trois choses pour moi. La première, c'est que c'est la stratégie assumée de l'équipe de France qui est avoir le ballon, c'est dangereux. Faire des temps de jeu, c'est dangereux. La priorité, c'est de jouer chez l'adversaire. La deuxième, c'est peut-être qu'on n'a pas un jeu au pied très efficace. Parce que il n'y a qu'à voir le match face au Japon. Les sorties de camp, elles n'ont pas toujours été très maîtrisées. On a un jeu au pied de pression assez inefficace. Ce qui fait qu'on hérite de beaucoup de ballons qui sont remontés par l'adversaire dans notre propre camp qu'on refuse de jouer. Et puis la troisième chose, c'est que les joueurs aujourd'hui, ils se déresponsabilisent un petit peu aussi en se réfugiant, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais derrière le plan de jeu. On estime qu'il vaut mieux taper. Et c'est vrai, et Wilfried l'a souligné, parfois à mauvais escient, on a tapé face au Japon sur des ballons de récupération. Au stadium, c'est quand même cocasse parce que c'est de ça dont se nourrit le plus le Stade Toulousain. Et ben ils l'ont pas vu. On a tapé sur des surnombres offensifs. On a tapé dans notre camp malgré des déséquilibres. J'ai le sentiment que voilà, l'équipe de France a des convictions. Des certitudes, non, mais des convictions, et elles sont un peu délicates au niveau international.
Le problème de ce jeu de dépossession dont on parle, c'est qu'il faut avoir un jeu au pied extrêmement précis. Extrêmement précis pour pouvoir mettre la pression sur l'adversaire. Ce qui n'a absolument pas été le cas contre l'Afrique du Sud, puisque le jeu au pied a été très déficient. Et de la même façon, hier au stadium. Mais c'est pas la pluie qui rend le jeu au pied déficient. Malheureusement, c'est que je sais pas si, finalement, on a les joueurs pour réaliser ce genre de jeu. Parce que, les Australiens ou les Néo-Zélandais, ils ont des jeux au pied incroyables. Mais nous, on n'est pas quand même les meilleurs au monde.
Wilfried.
Hier, si l'absence d'Antoine Dupont est marquante là-dessus, c'est sur le jeu au pied. La hauteur, la profondeur. Dans les deux premiers matchs, alors c'est encore des chiffres, mais plus de 700 mètres, il nous avait fait gagner. Il a un jeu au pied monstrueux. Et on en parlera aussi individuellement. Thomas Ramos a fait une très très bonne tournée de novembre. Mais c'est vrai que les diagonales de Jaminet, il est, bon, pour ses tirs au but, mais il est aussi pris pour ça, Jaminet. Donc vous enlevez Jaminet, vous enlevez Dupont, ils ont été remplacés, hein, mais Lucu n'a pas le jeu de le long jeu au pied de Dupont. Ramos n'a pas le long jeu au pied de Jaminet. Et en plus, on rajoute à ça, et on va aussi en parler, Romain Ntamack a été déficient aussi sur son occupation au pied par rapport à ce qu'il avait fait les derniers mois.
On y reviendra tout à l'heure. Juste, messieurs, moi j'avais quand même le sentiment.
Sinon, ça va, ils ont gagné, ils ont très
bien
joué.
Oui, je vois bien. Non, mais alors justement là-dessus, ils ont gagné leurs trois matchs. On a, quand on écoute Fabien Galthié, il l'a encore dit hier, c'était vraiment ce côté phase finale, finalement, de Coupe du Monde, face à trois nations du Sud, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon.
Ils ont leur brevet blanc.
Et voilà, ils ont leur brevet blanc. Il y a un côté un petit peu jusqu'au boutiste presque de Fabien Galthié là-dedans.
Tu as entièrement raison, mais justement, le problème, c'est la vraie question, c'est quand tu joues le Japon, tu n'as aucun risque, pratiquement, qui ont pris 50 points d'Angleterre. Tu dis, essayons d'ouvrir un peu les vannes, de prendre un peu plus de risques, et puis d'essayer un autre schéma de jeu. Parce qu'en fait,
oui, mais
tu
t'enfermes comme dans ça, dois jouer pour gagner.
Oui, mais tu t'enfermes dans un schéma de jeu. Mais ce qui te dit que c'est celui-là qui va te faire être champion du monde, j'en suis pas certain, moi.
Est-ce qu'on a un plan B, quoi?
Et voilà, donc le plan B contre les Japonais, c'était l'occasion rêvée de mettre en place un plan B et de dire, on va jouer un peu plus à la main, on va essayer de mettre un peu plus de vitesse dans le jeu, d'imprimer un peu plus de vitesse pour déstabiliser l'adversaire.
Mais alors pourquoi on a du mal dans l'utilisation,
du ballon c'est du conditionnement, je pense que
et oui, totalement.
Pendant trois semaines, on leur a expliqué de quart de finale, demi-finale, finale, c'était la finale de la Coupe du Monde.
Ils l'ont joué
comme une finale de Coupe du Monde.
Et ils sont devant la 80e, donc Pierre, le plan B, ils n'ont presque pas à le chercher en fait.
Mais oui, et puis ça explique pourquoi à 11 à 3 on prend les ponts au pied, ça explique pourquoi on veut soigner les sorties de camp, ça explique pourquoi on s'assoit sur nos certitudes, de dire jouer c'est pas forcément la solution pour gagner. Et jusqu'à présent, Fabien Galthié il a raison, et il a raison surtout.
Oui, mais il a raison, mais si Mathieu Jalibert fait pas la rentrée fracassante qu'il fait hier, je dis pas qu'on aurait perdu, mais je suis pas sûr qu'on ne peut pas perdre, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas avec niveau de jeu exceptionnel pour battre les Japonais à un moment donné.
Et d'autant que encore une fois, hier contre le Japon, on a quand même eu un gros temps faible, notamment en début de deuxième mi-temps. Le staff mais aussi semble avoir identifié ce temps faible.
C'est là où je te dis que si Mathieu Jalibert ne rentre pas, je ne sais pas comment on finit le match.
Comment on améliore justement ces temps faibles? Comment on se débrouille pour ne plus les avoir? Est-ce que c'est possible finalement d'avoir de faire un match plein sur 80 minutes, Wilfried?
Non, chaque équipe a c'est connu, hein, temps fort, temps faible, donc on doit aussi peut-être passer par là, hein. Les autres ont le droit d'être bons aussi à des moments. Bon, c'était que le Japon, entre guillemets, avec tout le respect qu'on leur doit. Mais non, on en avait déjà parlé les derniers mois, il y avait des trous d'air comme ça, hein. C'est pas d'aujourd'hui que ça date, pour le 15 de France. Histoire de concentration, choses comme ça, mais c'est impossible de faire 80 minutes vu ce qu'ils se mettent dans le museau pendant 80 minutes.
Ce formatage-là, il y a un bel exemple ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu le match contre l'Angleterre face aux Blacks, où justement, à un moment donné, ils sortent d'un schéma de jeu qui est le leur, c'est-à-dire qu'un peu comme Fabien Galthié avec l'équipe de France, je parle les Anglais évidemment,
occupation.
Et tout d'un coup parce qu'ils sont acculés, au pied du mur, ils sont devenus responsables d'un coup, et en étant responsables, en prenant le jeu à leur compte et en réalisant des prouesses, évidemment, ils ont marqué 3 essais extraordinaires. Donc c'est ça dont je veux parler. Est-ce que nous, dans les mêmes conditions de jeu, c'est-à-dire être mené comme il a été de 15 points, je crois, ou de 17 points, mais est-ce que tu es capable de renverser un adversaire comme les Blacks? Je n'en suis pas sûr aujourd'hui.
On a un exemple, c'est l'Australie, où on est mené, où l'équipe de France décide de mettre un peu plus de jeu et un peu plus de rythme, et ils marquent. Et je sais que ce match-là, il a généré beaucoup de frustration, en tout cas pour moi, je parle pour moi, parce qu'on s'attend toujours à voir une équipe de France dominante, et le Japon, on espérait voir quelque chose d'un peu différent. Mais le bilan, c'est qu'on a battu les champions du monde en titre, on a battu une des plus grandes nations du Sud, et on a battu une équipe qui nous avait mis en difficulté cet été, où on les a battus deux fois, mais jamais très largement. Donc c'est plutôt positif. La seule question que je me pose là, c'est est-ce que cette théorie est vérifiable? Est-ce qu'on n'est pas en train de cacher un peu notre jeu? J'espère que c'est ça. J'espère que l'équipe de France a un jeu plus ambitieux, mais qu'elle ne veut pas le montrer avant le Mondial.
Alors on va aussi se poser la question, messieurs, je vais vous la poser. Est-ce que cette équipe de France a progressé, ou en tout cas, est-ce qu'elle donne le sentiment d'avoir progressé sur cette tournée? On écoute vos réponses dans un instant. D'abord, celle du demi de mêlée, Maxime Lucu.
On s'était préparé pour 3 victoires pour cette tournée, on l'a fait. Il y a toujours des choses à corriger, même quand on a gagné le Grand Chelem. C'est très bien, l'équipe de France progresse de match en match. On voit que même des mecs qui rentrent dans le groupe, même des mecs qui ont des premières capes, on voit que tout le monde est dans le même mood, et c'est ça qui est bien. On bosse à 42, comme on le dit. Et on remercie aujourd'hui les mecs qui n'étaient pas là. Et c'est comme ça qu'on va avancer. 13 victoires d'affilée.
ce grand chelem, la tournée victorieuse au Japon et ici en automne en France. Donc voilà, il faut continuer, on a un gros 6 nations qui arrive pour encore continuer à grandir et préparer cette Coupe du Monde qui arrive dans un an.
Voilà, l'équipe
après,
de
juste,
France ouais,
progresse. Après juste, oui. Messieurs, sur le jeu, on peut être champion du monde en jouant comme ça. Hein. Il n'y a pas de rugby. Ça fait penser à ce que dit Christophe Furios il y a 2 ans avec l'UBB qui disait « Mais qui a dit que le rugby, c'était la contre-attaque ?» Si, ça. Il faut s'adapter.
Mais
on verra. On dit qu'il faut un plan B, mais on verra. Si c'est ce rugby qui doit être champion du monde, allons-y.
Oui, mais moi, je vois des nations qui progressent à côté de nous. C'est ça qui est important aussi. C'est pas se regarder son propre nombril. C'est quand tu vois les Irlandais, comment ils ont progressé. Quand tu vois les autres, même les Australiens, méfiez-vous, les Australiens à
Cognon,
qui seront préparés, qui seront à bloc physiquement, comme toutes les autres nations. Les Écossais, je t'en parle même pas, qui m'ont impressionné dans cette tournée. Les Blacks, même s'ils ont été rejoués en fin de match, Attention aux Blacks qui sont en train de se remettre
tout
en place. Alors, pour répondre à la question, si je dis qu'on a régressé, je vais passer pour un con. Tu gagnes 3 matchs, tu gagnes le champion du monde en titre. Évidemment que sur le résultat sec, je te dis on a progressé. Mais après, je répète que ce jeu minimaliste mis en place par Fabien Galthié et son staff peut, à un moment donné, avoir des limites. Je pense que dans une Coupe du Monde, on a rarement vu une Coupe du Monde avec très peu de jeux, comme nous, on met en place notre jeu. Je suis désolé, même l'Afrique du Sud, en finale de Coupe du Monde, ils envoient un peu de jeu. Tu peux pas jouer dans un jeu de dépossession tout un match et avoir l'espoir de gagner la Coupe du Monde. Moi, c'est mon sentiment aujourd'hui.
Pierre, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'est simplement, oui, je voulais réagir à Denis. J'ai cherché quand même des beaux champions du monde et j'en ai pas trouvé.
C'est Nouvelle-Zélande en 2015.
Oui, c'est ça. C'est un. Parce que l'Angleterre en 2003 fait un tournoi qui moi m'a plu, mais ils font une coupe du monde avec une voilure un peu plus petite. L'équipe de France 2011 qui va en finale, au départ le mandat de Lièvremont c'était celui qui tape dans le ballon est un con, on envoie du jeu de partout, on a fini avec l'équipe qui jouait le moins bien au rugby de tout le mondial et on fait une finale parce qu'on a les plus gros guerriers possibles. L'Afrique du Sud champion du monde 3 fois, il y a peu de fois où ils ont été flamboyants, j'ai pas beaucoup d'exemples. Alors peut-être que Fabien Galthié a raison et qu'on aura tort, Denis.
Mais peut-être qu'il aura raison, mais tant mieux pour lui. Après,
exactement, tant mieux pour lui.
Je pense que l'équipe de France a la qualité, a des joueurs pour jouer à notre rugby, pour être aussi performant dans une autre forme de rugby. C'est mon sentiment. Après, c'est parce que le talent est là. Alors, s'il n'y a pas de talent, je te dirais, continuons
comme chandelle, ça. Oui, chandelle, bagarre, il n'y a pas de problème.
On va quand même rappeler le contexte des 13 victoires consécutives. Je rappelle encore une fois que l'équipe de France est à un grand chelem finalement de 18. C'est pas grand-chose, c'est beaucoup et peu à la fois.
18, avec 2 matchs en Irlande et en Angleterre,
oui, mais bon, c'est beaucoup et peu à la fois. Bon,
mais
bref,
c'est pas loin.
En tout cas, à un grand chelem finalement du record de 18 victoires consécutives codétenues par la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Finalement, est-ce qu'on n'en deviendrait pas un petit peu trop exigeant avec ces bleus,
Pierre. Oui, bah, totalement.
Bah, je sais c'est pas. Normal.
Oui.
Oui, mais c'est normal. Mais bon, il y a quelques temps, ces matchs-là qu'on a su gagner dans les dernières secondes, en tout cas face à l'Australie et l'Afrique du Sud, on se réjouissait presque, enfin on pleurait, on se réjouissait, on savait pas trop comment réagir. Des défaites encourageantes.
Non, mais il y a une force qui se dégage de ce groupe. La vérité, c'est que c'est vrai qu'on est exigeant de nous parce qu'on attend plus de ce groupe parce que justement il y a un état d'esprit incroyable. C'est une bande de copains avec du talent dans toutes les lignes. Et tu te dis que voilà, que ça pourrait être encore plus grand, mais ça, je sais, c'est une frustration qui est personnelle. Après, quand tu gagnes, si t'es champion du monde en jouant comme ça, évidemment, tout le monde oubliera.
Pierre, non, je sais pas, c'est peut-être Wilfried qui pourra mieux répondre que moi. Je sais pas si les joueurs s'amusent dans ce schéma là,
est-ce qu'ils prennent du plaisir
de jouer. Je sais pas si c'est viable et durable. Après, c'est
quand même. Aucun nous a dit on se fait chier,
oui, voilà, c'est ça. Non, mais parce que la victoire, c'est peut-être plus important que comment on l'obtient. Je pense que pour eux,
j'ai fait la moyenne du nombre de points inscrits par match par l'équipe de France depuis le début.
Bah, c'est pas mal, hein.
31 points depuis série de 13 victoires consécutives. C'est quand même conséquent.
Bah, c'est mettent 30 points par match en moyenne. Donc ça veut dire il y a eu 40 contre les Blacks. On attend toujours un peu le festival. On s'est enthousiasmé, Denis, lors du dernier tournoi sur des actions, des essais,
pas sur la tournée d'automne. Je suis désolé. On s'est pas enthousiasmé du tout. Et d'ailleurs, cette équipe de France a commencé à être sifflée, c'est un signe quand même important. Mais quand tu vois Mathieu Jalibert, la classe de ce garçon. Damien Penaud a la même classe, la même qualité, mais on le voit moins qu'on le voit une fois par-ci par-là. Mathieu Jalibert, chaque fois qu'il rentre, il met le feu parce qu'il a des qualités en norme.
On va en parler dans quelques instants de Mathieu Jalibert. D'abord, si vous voulez bien faire le bilan aussi quand même de Fabien Galthié. Wilfried, c'est toi qui avais relevé cette statistique. Hein, depuis qu'il est sélectionneur, il a un pourcentage de victoires assez impressionnant. C'est aussi lui sa victoire finalement, ces 13 victoires consécutives, c'est même complètement sa victoire.
Bah oui, parce qu'on va pas, on tape sur les entraîneurs quand ça va pas. Et voilà, faut leur reconnaître ça. 80% pile poil, exactement 80% de victoire avec le succès contre le Japon.
C'est énorme.
Parce que c'était Skrela Villepreux 65%, le Bernard Laporte 64,5%, Lièvre-Romont 60%. Vous imaginez le gap entre les deux. C'est du jamais vu ce qu'on est en train de vivre là avec l'équipe de France. Donc surtout un an de la Coupe du Monde en France, c'est vrai que tous les signaux sont ouverts là-dessus. Et puis ils ont dit les choses. Quand il est arrivé, Fabien Galthié, il a dit on va faire ça, on va regagner, on va être dans les trois premiers, on va gagner des titres. Ben, ils ont tout fait. Donc, pour l'instant, faut reconnaître ça. Chapeau, ça pourrait être un des débats d'ailleurs sur notre antenne. Est-ce qu'il a déjà réussi sa mission, Fabien Galthié, même avant la Coupe du Monde? Ben, presque. Évidemment, tout le monde veut un titre, mais il a presque réussi sa mission par rapport à l'avant Fabien Galthié.
Non, il réussira sa mission s'il est champion du monde. Pour moi, il n'est pas réussi du tout sa mission.
Il nous a quand même remis un endroit où.
Il est là pour être champion du monde, il l'a dit, il l'a affirmé, donc sa mission elle s'arrêtera le jour où il sera champion du monde. Mais encore une fois, nous on est là pour rentrer dans les détails, pour analyser. Effectivement, quand tu vois le résultat, c'est merveilleux ce qu'ils ont fait l'équipe de France. Mais après, voilà, je reste pas frustré, je suis en pleine interrogation moi, par rapport... Vous savez, tu prends les deux matchs contre l'Australie et l'Afrique du Sud. Si tu peux très bien les perdre. Alors effectivement, tu vas me dire, ouais, tu ne l'as pas perdu, tu as gagné. Mais si tu analyses à froid, on va dire, ben, si tu as perdu, on ne serait pas là à avoir le même raisonnement. Donc c'est fragile. Ce que je veux dire, c'est que tout est fragile. C'est-à-dire que c'est pas une position de force aujourd'hui en disant, ouais, l'équipe de France, elle est imbattable. Non, c'est pas vrai.
Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément favori pour ce mondial.
C'est pas vraiment le discours qu'on a pu entendre hier à World Rugby. Enfin, il y avait les récompenses au World Rugby, et parmi lesquelles des champions du monde, Brian Abana ou Dan Carter. Et d'avis général, l'équipe de France arrive en numéro 1 en tant que favori. Derrière se trouve un petit peloton. On cite régulièrement l'Irlande, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, mais vraiment, dans la bouche des étrangers, la France fait peur. Après, nous, on est difficile et on est exigeant parce qu'on a connu une période terrible où on ne gagnait pas un match. On s'est mis à regagner grâce à la politique qu'a mise en place Fabien Galthié. Et donc, on devient un peu plus exigeant.
On a peur parce qu'on est exigeant, parce qu'on a peur
on n'est pas exigeant. Soyez réaliste aussi, quand même. Revenez sur terre. Tu gagnes l'Afrique du Sud avec 60 minutes, ils ont été en infériorité numérique. Ils te matraquent.
Oui, mais
non, mais je veux dire, oui, non, mais
c'est pas si loin à l'époque où ces matchs-là, on les gagnait pas non plus.
S'ils jouent à 15 contre 15, je suis persuadé que tu gagnes jamais. Donc, si tu veux, il faut quand même relativiser nos performances de cet automne. Parce que ça voudrait dire qu'on oublie quand même, on devient un petit peu. C'est pas être exigeant.
Denis, je pense surtout que c'est la première fois. L'équipe de France a passé des plateaux, a monté des plateaux chaque année, 2020, 2021, 2022, avec le Grand Chelem. Et c'est la première fois qu'il y a une petite marche où on est sur le même palier par rapport au mois d'avant. C'est peut-être pour ça aussi que ça nous marque un peu, que il y a des choses à redire. Est-ce qu'il y en avait lors du dernier tournoi? Non. On n'en a pas trouvé à redire. Lors de la dernière tournée, à chaque fois, non, je l'ai perdu, Denis, ou tu...
Non, finalement,
je ne suis pas sûr ce que je veux dire.
L'équipe de France n'a pas forcément progressé.
C'est la première fois où il y a un petit coup de frein, quoi.
Non, mais oui, bien sûr. Non, mais on a répondu. Hein. Bon, pour moi...
Messieurs, je vous propose de faire un
c'est focus. Pour non, mais on sort plus de doutes de cette tournée que l'inverse.
Ah. Tu vois, j'ai pas osé poser la question comme ça. Sortons avec plus de doutes qu'avec de certitude. Je me suis dit, c'est peut-être un petit peu trop de la poser comme ça.
Si t'es réaliste, un petit peu et lucide, tu es obligé d'avoir ce constat.
Tiens, on va faire un focus dans ce match, même sur la tournée, hein, de manière générale, sur deux trajectoires contraires. Titulaire, comme d'habitude à l'ouverture, Romain Tamak n'était pas vraiment dans ses crampons hier. Il a multiplié les maladresses face au Japon, sorti à l'heure de jeu. Visage un petit peu déconfit. Il a été relayé par l'autre numéro 10 des Bleus, Mathieu Jalibert qui était lui dans un très grand jour, destin croisé donc dans ce match et peut-être plus généralement donc sur la tournée de ces deux hommes qui au même poste n'ont pas vraiment passé le même dimanche à Toulouse sur la pelouse, Wilfried.
Ouais, pas vraiment, non. On peut presque dire que l'un a quasiment tout raté, l'autre à l'inverse tout réussi concernant Romain Ntamack. Alors on se souviendra quand même que son coup de pied derrière la défense qui a amené le premier essai de Penaud, coup de pied magnifique, mais sinon il a encore une fois traversé le match sans le talent qu'on lui connaît. Son jeu au pied a été peu profond, il a pas été bon dans ses choix. On a quelques choses, petites actions en mémoire. À la 19e, il se fait croquer par la défense devant ses 22 mètres alors qu'il voulait relancer, perte de balle qui entraîne les trois premiers points japonais. Immédiatement dans la foulée, il envoie le renvoi hein, sur ces trois premiers points japonais en ballon mort, coup d'envoi en ballon mort. À la 27e, il laisse échapper en touche un mauvais ballon de Jelonche, mais on le voit, il s'agace avec un joueur japonais, on sent qu'il y a quelque chose quoi. Et 32e minute en avant sur une chandelle alors qu'il n'y avait pas trop de pression. 3 minutes plus tard après sur une relance, il met une chandelle trop profonde, il sort, tu l'as dit, à la 56e. En plus il est touché au nez avec un bilan médiocre, et surtout on ne l'a pas reconnu cet automne. Et le contraste, il est saisissant avec Mathieu Jalibert. En moins de 25 minutes, il y a 4 actions marquantes. Il allume une première mèche dans son camp, petit coup de pied par au-dessus qu'il récupère, un rush sur plusieurs mètres. Il sert Chaluro pour le deuxième essai de Penaud. Sur l'essai refusé à Danty, sur le plongeon de Danty, c'est lui qui part en slalom dans la défense. Il a un bon jeu au pied à la 70e avec une superbe diagonale pour trouver une touche dans les 22. Et enfin, sur le dernier essai de Jelon, à nouveau une inspiration, coup de pied par au-dessus. Il sert Aldrit dans la foulée. Un peu comme contre l'Australie, on a eu un Jalibert électrique qui a contrasté avec un Ntamack en retrait.
Voilà pour ce résumé qui amène forcément à la question que je vais vous poser. Un instant, Denis. Galtier doit-il titulariser Jalibert pour le 6 Nations? Avant de vous écouter, écoutons d'abord le principal intéressé, Mathieu Jalibert.
Ce que je veux, c'est gagner en étant sur le terrain. Voilà, peu importe mon rôle, je ferai le mieux pour aider l'équipe. Après, c'est pas à moi de prendre les décisions. Il faut poser la question à Fabien. Mais voilà, moi, je suis avec l'équipe de France, très heureux d'être là. Et mon rôle, c'est d'apporter ce que je sais faire, peu importe si je sois titulaire ou remplaçant.
Bon, avant de la poser à Fabien Galtier, on va la poser à Denis Charvet.
Écoute,
qui trépigne.
Non, je trépigne pas, mais ça remet en question beaucoup de choses dans la politique de Fabien Galtier. C'est-à-dire que sa politique à lui, c'est on fait jouer l'homme en forme du moment. L'homme en forme du moment, quand il ne joue pas depuis 2 mois, ce n'est pas lui rendre service que de le mettre titulaire face à l'Australie. Et ça, on le savait avant le match. Mmh. Et un joueur aujourd'hui, le très haut niveau aujourd'hui, exige d'être extrêmement performant physiquement. Et
même si Thibaut Giroud disait qu'il cochait toutes les cases.
Oui, alors mais ça remet en question beaucoup de choses pour eux. Parce que justement,
tu parles de Romain Ntamack là.
Oui, de Romain, bien sûr. Donc si tu veux, c'est même pas la question de savoir si je fais débuter Mathieu Jalibert ou pas. C'est plutôt au départ de dire, est-ce qu'il faut le faire jouer Romain? C'est pas les mettre en concurrence, c'est de dire, moi j'aurais jamais fait jouer Romain le premier match contre l'Australie. Sauf qu'on est rentré dans une politique donc de dire, on fait jouer le groupe parce que le groupe a gagné, et les cadres, et on fait jouer les cadres. Et bien c'est un échec. Pour moi, c'est un échec de la politique de Fabien. Et je pense qu'il s'en est rendu compte. Et ce match contre le Japon, je pense qu'il a été influencé, je ne sais pas bien, par le fait que Romain venait à Toulouse, jouer à Toulouse. Et que si ce match n'avait pas été joué à Toulouse, mais imaginons à Bordeaux, je pense que Mathieu Jalibert aurait été titulaire. Donc ça, c'est pas la
Je ne sais pas, je crois qu'il a aussi voulu préserver une partie de sa charnière. Il ne voulait pas changer toute sa charnière.
Ah oui, Dupont n'était pas là. Ouais, mais je ne suis pas certain.
Beaucoup d'enlever
deux. Après, que Mathieu Jalibert.
2 sur 2, c'est beaucoup.
Que Mathieu Jalibert rayonne quand il rentre en jeu. Voilà, la question c'est se dire, est-ce qu'il aurait été meilleur s'il
avait été titulaire?
Donc, c'est pas sûr. En tout cas, on sait qu'il est en forme, physiquement.
En tout cas, Fabien Galtier semble dire que lui, il est convaincu que c'est ce rôle de finisher
mais
il l'a encore dit hier.
C'est terrible pour moi.
Ça veut dire qu'un Ntamack est intouchable?
Oui, alors ça veut dire que c'est un aveu d'impuissance. De dire ça, c'est un aveu d'impuissance. Tu peux pas dire, si tu mets pas les gens en concurrence, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
Fabien Galtier, je le cite, a dit hier, je n'ai pas de regrets du tout.
Oui, mais c'est pas qu'il doit avoir des regrets, il doit se remettre en question. Pour moi, c'est de se remettre en question, c'est pas avoir des regrets, c'est se poser les bonnes questions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies questions à se poser. Pour l'intérêt même du 15 de France.
Tu veux que j'aille plus loin, j'ai des satisfactions sur ces deux joueurs.
Oui, mais Romain, on sait la qualité de Romain. La sobriété dans son rôle quand il est en forme. Là aujourd'hui, il n'est pas en forme. Quand tu n'es pas en forme, tu manques de lucidité, tu manques de tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais des choix à contrario et tu joues à l'envers. Ce qu'on appelle ça à l'envers. Il n'y a pas l'alternance, il n'y a rien. Alors que lui, c'est sa force. Sa force, c'est de boire le jeu avant les autres.
Est-ce qu'il peut douter, Denis, Romain, avec son premier match? entre l'Australie avec l'Afrique du Sud.
Mais il est en plein doute quand tu le vois évoluer hier. Excuse-moi, c'est un joueur qui est en plein doute. Donc, ça remet pas en question la qualité du joueur qu'on connaît, qui est peut-être un des meilleurs ouvreurs au monde. Mais encore une fois, quand tu es au creux de la vague comme il est en ce moment, tu peux pas le maintenir. Et je pense que c'est pas lui rendre service. C'est en ça que je dis que Fabien doit se poser les bonnes questions.
C'est surtout un peu dur pour Jalibert parce que en étant très bon en faisant des rentrées, bah ça valide le fait qu'il est meilleur en démarrant sur le banc.
Qu'il est finisher.
C'est peut-être, je dis pas qu'il aurait dû être nul hein, ou mauvais, mais c'est que là, ça
conforte
va être très difficile
le choix de Fabien.
Voilà, le fait de mettre Romain Ntamack titulaire et lui qui rentre parce que
il donne raison à Jalibert,
il fait basculer les matchs deux fois au moins sur les trois matchs. Donc, ça va être dur de sortir de ce rôle-là.
Compte, c'est terrible pour lui. Et il a raison de le dire, Pierrot. J'ai pensé après le match. Je dis, mais tu te rends compte, ce gamin, le mec, il a qu'une envie, c'est de titulaire d'équipe de France. Quand t'es compétiteur, tu veux pas être remplaçant. Sauf que lui, quand il est remplaçant, il est meilleur que tout le monde. Donc, il a mis le bordel dans la tête de Fabien. Pourtant, il y en a du bordel.
Super sub.
En tout cas, il aura marqué des points, ça c'est sûr. Il y a d'autres joueurs qui auront marqué des points dans cette tournée. On peut penser notamment à
Thomas Ramos.
Ouais, c'est sur lui que je voulais
même
vous,
si, discuter. Je sais pas qui a encore disait,
6
si...
sur 7 hein, face au Japon, ouais. Au pied. Il avait fait 7 sur 8. Face
il a plus de 83% sur la tournée.
Sauf que je crains que le jeu au pied long de Jaminé risque de.
Le problème, c'est le système de jeu qu'ils ont, justement. On en a parlé sur l'occupation. Donc c'est vrai que je pense que Ramos est bon sous les ballons hauts, a été bon dans le jeu, a été juste sur les tirs au but, au même niveau que Jaminé. La seule chose, voilà, c'est la puissance du jeu, la longueur du jeu au pied de Jaminé, avec ce staff-là, avec l'idée de jeu, d'occupation de ce staff-là.
Qui a marqué ça va
être,
des points.
Denis, Pierre, ça va être entre les deux, le choix va être très dur. Quoi, c'est souvent sur le terrain, soit pas sur la feuille. Quoique Ramos peut faire 10 et 15. Donc
voilà, c'est ce que j'allais me poser comme question. Aussi, mais... c'est inimaginable de les voir les deux sur une feuille de match.
Il faudrait que Romain soit blessé, que Jalibert soit blessé.
Ça peut pas être un choix, un choix premier. Quoi. Bah, ça ne ferait qu'un choix par défaut.
Surtout que Mathieu Jalibert est bon en sortant du banc et on l'a déjà vu évoluer au poste de 15 avec parcimonie il y a quelques années déjà, mais il est capable de le faire. Il y a un autre joueur, si je peux me permettre, qui a marqué des points. Je sais pas si Wilfried et Denis seront d'accord avec moi, mais c'est Reda Vardy qui a réussi en un mois à peine à Marcoussis à retourner la tête du staff.
Galtier était 10 tirs en bic sur lui la semaine dernière.
Et Dany Prizot,
il a bien failli rater la tournée d'ailleurs. On se souvient de ce carton rouge pris contre Toulouse.
Et je pense que Dany Prizot peut commencer à se faire un peu de soucis parce que le message qui lui a été envoyé n'était pas terrible sur cette tournée.
N'oublie pas JB Gros aussi. Hein,
bien sûr. C'est pour
le numéro 2, c'était Baye, Gros, et puis après derrière, on ne savait pas trop à gauche.
C'est ça.
Ça veut dire finalement aussi que ce groupe n'est pas forcément fermé.
Il est fermé à quelques quelques incertitudes, mais
ça va jouer à 3 gars.
Voilà, 3-4 joueurs près, 3 joueurs on va dire. Allez.
Ouais, c'est là je pense que le 15 de départ, on le connaît quasiment sauf blessure évidemment ou forfait mais on peut quasiment le donner et le pont commence à se dessiner de mieux en mieux. Le groupe pour la Coupe du monde, il y a encore quelques strapontins. Mais je suis pas certain qu'il y ait des incertitudes majeures.
Wilfried. Juste une entre parenthèses pour Ramos Jaminé, c'est-à-dire qu'on fait des 6-2, le plus souvent ils font 6 avant et 2 3 quarts. Donc ça veut dire qu'il y a un demi de mêlée, demi d'ouverture sur le banc. Donc soit vous êtes titulaire, soit même si Ramos peut faire 10 et 15, soit vous êtes pas sur la feuille. Ça dépend parce que on va peut-être parler Arnaud sur la fin de ce podcast des absents aussi des certains cadres qui étaient pas là.
Je t'en prie Wilfried, j'allais y venir si tu veux y venir.
Non parce que avant cela, le 15 en troisième ligne, là, Jelonche, Aldrit, Olivon, la troisième ligne de cet automne, n'était pas celle du Grand Chelem, c'était Cross, Aldrit, Jelonche. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en troisième ligne si François Cross revient en forme?
Oui, mais tu crois qu'on va laisser François Cross à la maison? Quoi qu'il arrive, tu sais que les 4 seront au mondial.
Tu parles du 15, on parle du 15 de départ.
Oui, bien sûr. Bah, je pense que sur le 15, tu t'adaptes un peu en fonction de l'adversaire et c'est ce qu'a fait Fabien Galtier sur le Grand Chelem. C'est-à-dire que quand il avait besoin d'un sauteur supplémentaire, il a préféré un Cretin,
quand il a
besoin d'un concasseur, d'un joueur qui avance, il a plutôt mis François Cross. Ça dépend un peu du profil de l'adversaire et de ce que tu as envie de faire.
Oui,
aussi.
Il s'embarrasse pas. Parfois, il met François sur le banc.
Parce que Charles Olivon est revenu dans le game.
Je pense qu'il certitude, il fera démarrer Charles Olivon, car François va revenir de blessure, quoi, fin de l'année, je crois, ou je sais pas.
Donc le tournoi arrivera en février.
Non, il revient avant. Mais en février, donc, moi, je vois pas comment il enlèvera la troisième ligne. Donc ça, c'est vrai qu'on parle pour les points positifs, les joueurs qui ont marqué des points, c'est Charles Olivon, c'est évident. Parce que revenant de blessure, on ne savait pas trop quel aurait été son rayonnement, mais c'est le même rayonnement qu'il avait.
Dans le vestiaire, l'aura qu'il a sur cette équipe, en touche, dans le jeu, il a été très bon. Et voilà, et pour finir sur les absents, pour le 15 de départ, alors on l'a presque quasiment, en considérant que Cyril Bailly sera revenu, il sera titulaire à gauche. C'est Allel, c'est Gabin Villière, qui est quand même un stratège sphérique sur le dernier tournoi. Et puis là, Moefana a fait ses matchs, mais est-ce que vous remettez Gabin Villière titulaire à l'aile gauche?
S'il en forme,
je pense que oui.
Et puis t'as Arthur Vincent qui va venir dans la rotation aussi, parce que quand il joue avec l'équipe de France, c'est un phénomène aussi. Enfin, de toute façon, le 15 de départ à 2-3 exceptions près, bon, je sais que c'est énorme pour 15 mecs, mais on sait globalement à quoi il va ressembler. Ouais. Il y a quelques incertitudes, mais c'est le mieux pour le... Enfin, c'est pour le mieux à chaque fois. C'est-à-dire que c'est deux gars en concurrence qui sont très forts. Et moi, je suis un fidèle auditeur de Entre les poteaux. Et je me rappelle qu'au tout début de la tournée, j'écoute un petit pratique. C'est pas mal ce podcast.
C'est toi alors.
Mais, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner. Hein, mais j'ai écouté Denis qui disait. C'est vrai, cliquez. J'ai entendu Denis qui disait que Charles Olivon jouait très gros. Jouait très gros cette tournée. Et je pense que il en sort grandi.
Ouais, absolument. Ouais. Et il jouait très gros. C'est pour ça que je le redis. On pensait, j'avais une incertitude par rapport à ses performances, savoir si elles seraient XXL. Et elles ont été XXL. Donc il y a pas de raison. Et puis il peut remettre en question le capitaine.
Ouais, toi, tu veux tout changer. Denis veut tout péter. On change le capitaine.
Écoutez, pas dire ça, Denis.
Écoutez bien ce que je vous dis. Okay. On en reparlera.
D'accord.
Attention, parce que c'est un truc sérieux. Il y a beaucoup d'auditeurs qui téléchargent sur les plateformes et qui s'abonnent sur ce podcast. Est-ce que c'est une info, Denis, ou une intuition?
Pas du tout, c'est une intuition, et je pense que c'est une interrogation.
Mais tu disais il y a quelques semaines qu'Antoine Dupont, c'était le taulier, on le laissait, voilà.
Quel cadeau. Je te dis qu'Antoine Dupont, il serait mieux en le laissant soldat, voilà, aujourd'hui.
Allez, on va rester sur cette intuition.
Sur un truc mystère, on vous laisse là-dessus. On se retrouve pour le tournoi, vous avez 3 mois à réfléchir là-dessus. Oh, qu'est-ce qu'il nous a dit le soir en s'endormant? Mais il disait vrai, Denis.
Qu'est-ce que c'est que ça, Denis?
Charles Olivon a remis.
Je voudrais juste qu'on glisse un petit mot de la Nouvelle-Zélande, qui sera le premier adversaire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en septembre 2023. 7 matchs sans défaite, dont 6 victoires pour les All Blacks, qui finissent très très bien leur année, en dépit du fait qu'on ait dit que c'était que l'ombre finalement des All Blacks. Alors bon, ça a fait 25 partout face à l'Angleterre l'autre jour à Twickenham. Ils ont complètement raté leur deuxième mi-temps. Est-ce qu'on doit pour autant les regarder de haut? C'est All Blacks.
Il faut prendre en compte quand même que c'est une équipe qui arrive en fin de saison, tu l'as dit. Donc si tu veux, c'est une équipe qui est, malgré tous les efforts, ils arrivent quand même à faire une première mi-temps de très très haut niveau contre les Anglais, qu'ils leur mettent, je ne sais plus combien, il y avait 20 points d'écart, ou je ne sais pas.
Oui, il y avait quasiment ça, c'était 24 à 6, je crois.
Ils étaient même impressionnants au niveau de la gestion, au niveau de la possession. Les Anglais étaient incapables
de rivaliser.
Et là, on a revu de grands joueurs, d'une grande équipe All Black. J'étais impressionné.
Ioane notamment.
Ioane, mais il n'y a pas que lui. Devant, ça concassé. Whitelock est revenu en gros niveau. Et puis après, j'ai l'impression quand même que ils ont remis un petit peu les Anglais dans le jeu, avec ce carton jaune de, je ne me souviens plus de qui, mais de Barrett, il me semble, troisième ligne. Jordan Barrett.
Non, mais je ne sais pas où il veut aller, alors j'aurais bien lui tenir la main.
Non, mais c'est curieux qu'il y ait eu ce trou d'air.
Ah oui, il y a eu un énorme trou d'air d'une vingtaine de minutes.
Pour en finir avec les Blacks, s'il n'y a pas ce trou d'air, tu te dis, les Blacks sont revenus, les Blacks. Mais après, il y a ce trou d'air, donc je me prends en compte la fin de saison des Blacks.
Mais c'est pas le seul trou d'air qu'ils ont connu, hein, parce que face à l'Écosse la semaine d'avant, ils mènent quand même très rapidement 14-0. Oui, mais ils gagnent. Il faut quand même.
Il y a une histoire de confiance, ce que les Bleus font là depuis des mois. Les Blacks l'ont pas, en fait. La confiance de gagner tout le temps, d'avoir toujours un moment, même quand ça panique un peu, c'est Wardy qui le disait, on l'a déjà répété dans ce podcast, qu'à un moment, on ne panique pas, on sait qu'on va aller au bout de notre truc et que ça va passer. Alors, ça passera peut-être pas à des moments, mais. Donc, et ça, je pense que c'est ce qui manque aux Blacks sur ces derniers mois. Les Blacks, ils ont vécu une sale période hein, avant de remporter le Rugby Championship. Hein. C'était, on parlait au pays de virer le sélectionneur et tout, donc ça a été loin quand même. Donc, je pense qu'il y a encore des petits restes comme ça. Maintenant, Denis, Pierre, Arnaud, dans 10 mois, avec une prépa.
C'est ce que j'allais vous dire, on peut se permettre de les regarder de haut ou
Ah non.
Les yeux dans les yeux, oui,
non,
de haut.
C'est évidemment une blague.
C'est une bonne question parce qu'au final, la Nouvelle-Zélande, elle a jamais semblé aussi humaine. C'est-à-dire, on n'a jamais, moi de mon vivant, vu une équipe de Néo-Zélandaise qui faisait aussi peu peur. C'est-à-dire, tu les vois, tu dis, oh ouais, bonne équipe. Mais on a presque plus peur de jouer l'Afrique du Sud. Et c'est ça qui est un peu. Je pense qu'on a égratigné le mythe sur les 12 derniers mois. Et c'est pour ça qu'en Nouvelle-Zélande, on en veut beaucoup aux sélectionneurs. On est passé d'une équipe qui faisait flipper tout le monde. Hein. Hier, quand tu jouais les Blacks, tu savais que tu allais prendre des séquences, tu savais que ça allait être dur, que défensivement, c'était tank. Mais faut pas oublier qu'il y a un immense changement générationnel chez les Blacks. Et qu'aujourd'hui, on a une équipe quand même assez jeune, assez inexpérimentée.
Et puis, il y a des barrières qui sont tombées. Ils ont perdu contre l'Irlande chez eux, ils ont perdu contre l'Argentine. Il y a eu des choses qui étaient inimaginables.
Mais il y a des joueurs qui sont quand même des joueurs.
Des cadors. Hein.
Hardy Saivea, par exemple.
C'est un monstre.
C'est un monstre. Il revient à un niveau qui était. Il vient à un niveau qui n'était pas le sien. Moi, il y a des joueurs qui m'ont impressionné chez les Blacks.
Oui, Bridge, c'est un joueur top mondial. Retallick Whitelock.
Le talonneur, n'en parlons pas.
Non, mais ils sont des très bons joueurs. C'est certain. Et ce sera une équipe redoutable, et je pense que l'équipe de France, si elle fait un match moyen, ne pourra pas battre les Néo-Zélandais. Après, voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est pas la grande équipe de Nouvelle-Zélande, pas encore.
Et ce match, j'aimerais juste que Denis fasse le même mulet que Johanné pour la Coupe.
Ça tirait vachement bien. Hein ça.
Il va vite oublier quand même.
Oh là là, cette fusée. Il nous avait mis l'essai l'année dernière. Rappelle-toi, au Stade de France. Et là, c'est pareil.
Là, il en a mis un qui était assez exceptionnel.
Ça doit être aérodynamique, le mulet, en plus, Denis. Tu devrais essayer.
Allez, ce match, ça sera le 8 septembre 2023. D'ici là, on aura un petit tournoi des destinations à gagner, un grand chelem à faire, pourquoi pas, et un premier match. Le 5 février à Rome face à l'Italie. Messieurs, un tout petit pronostic. Allez, à quelques mois du tournoi destination, grand chelem ou pas grand chelem?
Pas grand chelem.
Denis?
Non.
Wilfried?
Non, pas grand chelem parce que je pense que ça sera très dur d'aller gagner en Irlande là, le pédigré des Irlandais en ce moment. Par contre, rapidement,
c'est une année impair en plus.
Il y a une chose qu'ils n'ont pas fait, c'est depuis 4 ans, depuis 3 ans, c'est gagner à Twickenham. Et on l'a dit, on l'a glissé hier à Grégory Aldrit. Et il a eu une petite lumière dans l'œil, il a dit, c'est vrai que j'ai regardé Angleterre, Nouvelle-Zélande, il a dit Twickenham, c'est magique et tout. Et il l'avait déjà en tête. Donc,
l'Italie a battu l'Australie.
Oui, il va pas falloir se taire. Il y a eu pas mal de surprises. On verra ça donc à partir du 5 février. D'ici là, le rugby évidemment revient dès la semaine prochaine entre les poteaux. Sera là et puis ça sera le retour du top 14 aussi début décembre. Très bonne semaine à tous.
Ciao.
Ciao.